Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency.
Avec le fondateur en personne de Radio IMO. Bonjour Sylvain Lévy-Valency.
Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous.
On parle de votre logement jusqu'à 10h sur Sud Radio avec vous. On va notamment recevoir votre invité.
Absolument. On va faire un focus, si vous voulez bien, sur l'investissement qui est ouvert à tous. À partir de combien on peut se lancer dans un projet? Quel risque? On en parlera avec la présidente et la cofondatrice de We Are Olivia, Andrea Dancy, qui sera avec nous dans quelques instants. On parlera également du chantier du Sélec avec Laurent Permain. Nous allons vous expliquer ce que signifie le label RGE, reconnu garant de l'environnement.
Oui, label RGE, oui. Très important. On va parler également des questions que nous posent nos auditeurs sur la pondeur de Sud Radio avec Bérénice de Villefleurio.
Et on va parler de la colocation. Quel bail faut-il pour une colocation?
Ah, quel bail, ça c'est important. Et on terminera par les biens coup de cœur à acheter un peu partout dans toute la France. Mais avant ça, les infos de la semaine à retenir avec Bérénice et Sylvain Lévy-Valency.
On va commencer avec ces infos à retenir, Bérénice, avec la pénurie locative. C'est un fléau et ça s'aggrave.
Et oui, alors vous cherchez une location, peut-être si vous nous écoutez, et vous ne trouvez rien, et bien c'est normal dans certaines villes, c'est mission impossible. Des files d'attente pour visiter un studio, des dizaines de candidatures pour un logement en quelques heures, des loyers qui continuent de grimper. La crise du logement atteint des sommets. Alors d'après le dernier baromètre Mandat, le marché locatif français est en pleine mutation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certaines grandes villes voient la tension locative s'atténuer légèrement, mais elle reste sous pression évidemment, tandis que d'autres comme Bordeaux par exemple ou d'autres villes de périphérie explosent. Alors à Paris, le nombre moyen de candidature par annonce a chuté de 46% en un an, mais reste à un niveau élevé. Hein. Il y a en moyenne 44 candidats par annonce. Lyon recule aussi avec 14,5 candidatures par annonce, c'est moins 20%, mais les logements partent toujours en une dizaine de jours. Pareil pour Rennes, pour Lille, ça décroche un tout petit peu, mais ça reste quand même tendu. Ces villes restent quand même attractives.
Bien sûr. Alors il y a des villes où c'est l'inverse, la demande explose.
Oui, Bordeaux par exemple, plus 79% de candidatures en un an, 27 candidats par annonce, hein, presque autant qu'à Paris. Un délai de location, de mise en location ultra court, hein, de 10 jours, c'est aussi rapide que dans la capitale. Et puis un afflux d'étudiants, hein, toujours aussi nombreux.
On constate également une évolution assez marquante.
Oui, alors c'est ce que je vous disais, donc la tension se déplace, c'est un phénomène assez intéressant, c'est-à-dire que les locataires quittent les centres-villes et vont vers la banlieue et les communes autour de ces grandes villes. Donc la pression locative en fait se reporte sur ces zones périphériques. Quelques chiffres, à Clichy par exemple, plus 30% de demandes avec 64 candidats par annonce. Rosny-sous-Bois, plus 132% de demandes. Tourcoing, à côté de Lille, c'est un record absolu avec plus 221% de demandes. Argenteuil, pareil, hein, ça part très vite, les logements partent en 9 jours. Donc, autrement dit, voilà, les grandes villes restent tendues, mais la pression locative donc se diffuse vers ces nouvelles zones.
Alors, si on analyse le pourquoi de cette explosion locative?
Pourquoi? Parce qu'on manque d'offres de logements, hein, toujours pareil, hein, interdiction de louer les passoires thermiques, donc il y a moins de logements, ça retire des biens du marché, les propriétaires préfèrent vendre, hein, au lieu de, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour faire les travaux, ou les laisser vacants, parce qu'ils n'ont plus le droit de louer. Il y a moins de construction, on en parle toujours, hein, dans cette émission. Et puis, l'accès au crédit est de plus en plus difficile, donc forcément, des milliers de Français, en fait, peuvent pas acheter, ils peuvent pas devenir propriétaires, donc ils restent locataires, donc ça bloque le circuit.
Eh oui, Jean-Marie, ça s'arrange pas.
Non, ça s'arrange pas, hélas. Merci à vous, restez avec nous. On se retrouve dans un instant,
On va parler d'investissement immobilier avec le crowdfunding.
Le crowdfunding, comment on peut le traduire en français?
On peut le dire, l'acquisition à petit prix, peut-être.
Oui, avec ou par des cagnottes.
Financement participatif.
Ou le financement participatif.
Voilà, merci, non, mais, vous voyez.
Oui, mais oui, ça permet aussi d'acquérir des biens à un tout petit prix. Donc, le financement participatif, c'est peut-être une alternative.
Exactement. Mais Sylvain Lévy-Valency pense en anglais. C'est un businessman, comme vous voulez. Allez, restez avec nous, on se retrouve dans un instant.
Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency.
On parle logement jusqu'à 10h avec Sylvain Lévy-Valency et son invité.
Merci Jean-Marie. Bonjour Andrea Dancy.
Bonjour. Merci à vos auditeurs.
Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente et cofondatrice de We Are Olivia. Merci de répondre à nos questions. Alors effectivement, on peut acquérir de l'immobilier avec des tout petits tickets. C'est du financement par la foule, c'est du financement participatif. Pourquoi vous l'avez appelé Olivia?
Je l'ai appelé Olivia parce que je voulais un prénom des femmes parce que la plateforme porte également la cause d'égalité économique entre hommes et femmes. Et Olivia, c'est aussi un autre avatar. Donc, on a créé des épisodes avec de contenu pédagogique, un peu à la Martine. Vous connaissez la série littéraire. Et en fait, chaque semaine, il y a
Martine à l'école.
Exactement. Bah,
c'est Olivia. Donc là, c'est Olivia achète un immeuble.
Exactement. Voilà. Exactement. Et on amène ces éléments qui sont difficiles à comprendre pour certains. On les amène à un niveau très simple.
Donc, Olivia fait du Martine fait du crowdfunding. Martine achète un immeuble.
Exactement.
C'est formidable. Voilà.
Il faut aller checker sur notre page LinkedIn.
Eh ben, on va pas s'en priver. Alors, votre credo, c'est simplifier l'investissement immobilier, le rendre accessible à tous. Le crowdfunding a pas mal souffert, hein, quand même, ces deux dernières années. C'est normal, le marché immobilier, globalement, c'est largement grippé. Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer le principe du qu'on appelle le crowdfunding, le financement participatif? Est-ce que ça popularise, pour des petits foyers, la possibilité d'investir eux aussi?
Exactement. Donc, avec We Are Olivia, notre objectif, c'est de donner accès à des projets immobiliers autrefois qui étaient inaccessibles par la foule, hein, comme on l'appelle, à partir de petits montants. Nous, on avait choisi 100 euros. Donc, on peut investir à partir de 100 euros. Donc, on peut financer des projets immobiliers à partir de 100 euros. Et en échange, donc, on reçoit un rendement. Ce type de financement, donc c'est créé aussi donc pour donner ce type d'accès au large public.
Bien sûr. Alors avec des rentabilités qui peuvent aller jusqu'à
11% brut.
D'accord. Alors
c'est la moyenne du marché.
Il faut rappeler que le crowdfunding, vous collectez de l'argent, les gens prêtent l'argent.
Exactement.
C'est pas des actions. Ils ne détiennent pas le bien immobilier, ils prêtent l'argent.
Exactement.
Aux porteurs de projets et contre un rendement. C'est ce qu'on appelle une obligation.
Exactement. Donc, c'est un prêt, comme vous l'appelez, que c'est similaire à un prêt bancaire, hein, donc, parce que c'est comme ça les gens y comprennent, mais c'est un prêt obligataire. Donc, la communauté d'investisseurs, donc eux, ils prêtent de l'argent aux porteurs pour, par exemple, rénover un hôtel, un centre de santé.
Alors, on prend l'exemple, vous achetez un immeuble qui vaut 1 million d'euros, il y a 1 000 souscripteurs à X millions d'euros pour acquérir l'immeuble.
Cet hôtel. Okay.
Et vous leur remboursez, donc vous leur payez les intérêts.
Exactement.
Pendant la durée du prêt.
Nous, on le paye trimestriellement, notamment.
Et à la fin, vous
remboursez le capital.
Il n'y a pas de risque possible?
Bien évidemment qu'il y a un risque. Risque zéro n'existe pas. Mon métier des bases, c'est moi, j'ai fait de l'économétrie et des statistiques, donc c'est le risque. Et comme on est tous, donc on peut pas avoir un rendement à 11% et s'attendre à avoir un investissement sans risque. Il y a de risques des défauts du porteur, etc. Des risques administratifs liés à certains projets. Après, je pense que c'est très important de faire une bonne sélection des projets. Au début, l'analyse et la méthodologie des sélections qu'on applique doit être rigoureuse. On analyse le porteur, donc qui est le porteur, qui amène le projet.
Oui, c'est le projet,
Le projet, on analyse le projet et le contexte également.
Et sa capacité
à pouvoir rembourser,
parce que bon, dans votre métier, malheureusement, il y a eu quelques défauts de paiement, qu'on peut le dire. Mais globalement, c'est le crowdfunding a le vent en poupe, hein, quand même au niveau populaire. Vous êtes une jeune entreprise, vous avez été créée en septembre 2024. Combien de projets à ce jour vous avez financé?
Nous, on a financé 5 projets en moins de 5 mois, on peut dire, hein, et on a levé 2,5 millions environ. Nous sommes très très satisfaits du démarrage de We Are Olivia et de la confiance que les investisseurs nous donnent, hein, parce qu'ils s'intéressent à nos projets et à ce nouveau cycle immobilier, parce qu'on parle tous de ce nouveau monde immobilier qui vient de commencer, hein, donc, et on voit qu'il y a un intérêt du marché. D'ailleurs, la plupart de nos investisseurs, c'est souvent la première fois quand ils entendent parler du crowdfunding. Donc la preuve fait que c'est pas encore un type d'investissement qui est ultra populaire ou ultra connu.
Alors justement, c'est important parce que vous devez sourcer, vous devez donc trouver des projets. Comment ça se passe? Comment les projets arrivent? Et comment vous... Alors on a compris comment vous les sélectionniez puisque vous vérifiez un certain nombre d'éléments, mais comment ils arrivent chez vous?
Mon associé et moi, nous sommes des anciens banquiers, donc de banquiers spécialisés entre autres dans l'immobilier professionnel. Donc notre premier canal de sélection, c'est notre fonds de commerce des opérateurs immobiliers qu'on accompagnait avant à la banque avec du crédit immobilier. Et sinon, on a une autre capacité des sourcés dans les créances d'autos de banque. Et ça, ça nous donne également de la possibilité d'acheter dans des conditions très avantageuses. Et après, sinon, on fait comme tout le monde. Hein, on participe à des événements comme MIPIM, etc. Et on est ouvert à la rencontre des nouveaux opérateurs.
Voilà, le MIPIM que d'ailleurs nous couvrons du 11 au 14 mars. Ah,
au plaisir de
les, les projets immobiliers, vous avez besoin d'opérateurs, vous avez des opérateurs qui vous accompagnent. C'est quoi comme type d'opérateur qui vous accompagne aujourd'hui?
Non, c'est limite aux marchands de biens. Aujourd'hui,
c'est quoi marchand de biens pour ceux qui nous écoutent?
Marchand de biens, c'est ceux qui achètent, ils rénovent, ils revendent. Promoteurs, c'est ceux qui achètent un terrain, ils vont faire construire un bâtiment et après ils vont vendre. Donc nous, on se limite aux marchands de biens. Géographiquement, on finance sur la France entière, mais la sélection a fait qu'à aujourd'hui, on a fait Paris, Île-de-France et le sud de la France.
Alors, les investisseurs aujourd'hui, donc on va parler à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui veulent investir. Comment ça se passe pour eux lorsque souvent, très souvent, et c'est vrai que c'est un phénomène en France, ils ont très peu de culture financière?
Exactement. D'ailleurs, nous investisseurs, ils viennent de tout univers, de tout horizon. On a des jeunes qui sont pas du tout avertis, hein, donc des novices, mais on a aussi des investisseurs qui, eux, ils sont, ils connaissent l'immobilier, la finance, et ils veulent diversifier leur portefeuille. Mais pour ceux qui ont besoin d'accompagnement, on a une équipe de relations investisseurs qui les accompagne. Et en plus de ça, on a du contenu pédagogique. Donc, ce que je disais, en plus d'Olivia, on fait des autres, on amène des autres types de contenu pédagogique pour expliquer simplement.
Alors, vous les accompagnez donc pour aussi leur expliquer comment ça se passe.
Tout à fait.
Est-ce que c'est plutôt des moyennes d'investisseurs en âge plus âgé, plus jeune? C'est quoi la moyenne? Est-ce qu'on peut donner une moyenne?
Tout à fait. J'y suis à 45 ans, 80% hommes.
Ah oui, quand même.
Oui, quand même.
Ouais. Bon, ça s'explique pourquoi? Parce que les hommes, c'est
eux qui ont les comptes. Je pense qu'on sait tous. Et moi, j'étais directrice de dépôt dans mon ancien vie professionnelle. Et j'avais exactement la même statistique. J'avais 50 ans de âge moyen, donc pas 45.
Bien sûr.
Mais 80% hommes investisseurs. Donc voilà. Et sinon, le plus jeune, c'est 18 ans. Et le plus âgé, c'est 86 ans. Donc,
ah oui, voilà. Quand même. Alors, avec des tickets, on peut démarrer à...
On peut démarrer à 100 euros, mais mon ticket, le ticket moyen sur la plateforme, il est à 10 000 euros. Donc
il est à 10 000 euros. Mais on peut démarrer
à 100 euros.
À 100 euros et rémunérer, vous nous avez indiqué.
En moyenne, on est à 11% brut.
Donc ça reste quand même très,
sur
très
intéressant. Sur des durées courtes, exactement.
Quelle est la fiscalité appliquée?
30% au PFU, hein, donc c'est la fiscalité.
Alors,
classique.
PFU, ça veut dire quoi PFU?
C'est prélèvement forfaitaire unique.
Unique, voilà. Voilà, pour
merci. Vous,
voilà, on vulgarise.
On connaissait voilà. Pas, mais on sait déjà qu'on n'aime pas.
Voilà. Tout ce que c'est tout petit abréviation, voilà. On n'aime pas.
Voilà, on va donner l'adresse du site internet pour ceux qui veulent investir, www.weareolivia.com. Olivia, c'est pas mal.
Ben voilà, exactement.
Mais, merci, Andréa.
Des
merci
hommes de 45 ans, c'est pile votre profil, mon cher Sylvain Desvivelancy, enfin.
Oui, vous avez vu, 45 ans, pas
exactement.
Tout juste.
Exactement. La jouvence de Sylvain Desvivelancy, la cure de jouvence. Allez, restez avec nous, on se retrouve dans un instant. On continue à parler de votre logement, chers amis. Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur le répondeur de Sud Radio, notamment sur... La colocation, quel bail je dois signer? On vous répond dans quelques instants avec Bérénice de Villefleurio. Je précise qu'Emmanuel Macron, le président de la République, par ailleurs, est en train en ce moment même de s'exprimer au salon de l'agriculture. On doit protéger les producteurs, nous dit-il. Les agriculteurs ne sont pas une variable. On verra si ce discours est bien accueilli. Sachez qu'en tout cas, ça se passe calmement, notamment parce que c'est à huis clos. On y reviendra.
Sud Radio, parlons immo. Sylvain Lévy-Valence.
Parlons logement avec le fondateur de Radio Immo jusqu'à 10h, comme chaque samedi sur Sud Radio. Tout de suite, on répond à vos questions, vous qui nous écoutez sur Sud Radio.
Sud Radio, parlons immo, ça vous concerne.
Eh oui, vous nous écoutez, vous nous posez des questions sur le répondeur de Sud Radio 0826-300-300 sur le logement. Sylvain Lévy-Valency.
Absolument, Bérénice, cette semaine, on a eu un message sur le principe de la colocation, c'est un vrai sujet.
Oui, c'est Cindy qui envisage de se mettre en colocation dans quelques semaines avec deux copines au Havre. Donc elle quitte le foyer, les parents, et elle aimerait savoir quel type de bail c'est possible. Enfin, quel type de bail est possible pour une colocation. On accueille notre expert Arnaud Accard. Bonjour, vous êtes le président d'Immo Direct et vous gérez des biens immobiliers justement pour les propriétaires. Bonjour Arnaud.
Oui, bonjour Bérénice, bonjour toute l'équipe.
Bonjour.
Alors Arnaud, vous qui avez l'habitude de faire signer des baux, quel type de bail pour une colocation?
Alors, écoutez, cette jeune femme, si elle va se mettre en colocation avec deux amis, le meilleur bail, c'est ce qu'on appelle le bail solidaire de colocation. Pourquoi c'est le meilleur ? Alors, pour les locataires, parce que forcément, ça va être moins cher que si chacun va aller louer une chambre de son côté.
Ouais.
Et puis, pour le propriétaire, parce que ça va garantir le bon paiement du loyer avec une solidarité entre les colocataires. Donc, par contre, il faut bien se connaître, parce qu'effectivement, s'il y en a un qui commence à plus payer, les deux autres vont devoir payer à sa place. Donc, c'est vraiment un engagement important de la part des colocataires.
Donc, ça veut dire que tous les colocataires sont responsables.
Tous les colocataires sont responsables du bon paiement de l'intégralité du bail qui a été signé par l'ensemble des colocataires. C'est pour ça qu'on appelle ça le bail solidaire.
Et alors l'autre bail qu'il est possible de faire, c'est quoi ?
Alors, il y a un autre type de bail qu'on appelle le bail à la chambre. Donc là, on va s'engager uniquement pour le paiement du loyer de sa chambre et puis de pouvoir profiter, bien évidemment, des parties communes de l'appartement ou de la maison. Donc là, il n'y a pas de solidarité. Par contre, la plupart du temps, quand on signe ce type de bail, on ne sait pas avec qui on va habiter. Donc voilà, il peut quand même y avoir quelques petits soucis de cohabitation. C'est souvent plus cher. Et pour le propriétaire, même si au départ il pense que c'est une bonne opération, parce qu'effectivement s'il additionne tous les loyers de chaque chambre, et ça va lui faire plus de revenus, il y a beaucoup beaucoup plus de rotation. Forcément, les gens ne se connaissent pas, ils arrivent là pour une période souvent assez réduite, et donc ça génère des frais de recherche récurrents et de la vacance locative.
Oui, parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau locataire, le propriétaire paye pour cette recherche de locataire. Donc il y a plus de turnover.
Tout à fait. À chaque fois, il y a un coût. Et puis, si vous êtes dans les périodes creuses, c'est-à-dire de octobre à mai, hein, ça c'est ce qu'on appelle les périodes creuses de la colocation, vous risquez d'avoir plusieurs mois sans locataire.
Donc, j'imagine que c'est un bail que vous voyez moins régulièrement.
Alors, c'est un bail qu'on a beaucoup beaucoup vu là juste après le Covid, parce que c'était un peu la folie de la colocation, mais depuis un an, la plupart des propriétaires reviennent sur des systèmes de baux solidaires, comme ça ils savent que c'est un groupe de personnes qui se connaît déjà, qui habitent dans l'appartement ou la maison, et effectivement il y a peut-être un peu moins de revenus, mais sur le long terme il y en aura plus, parce qu'il y aura beaucoup moins de turnover et beaucoup moins de vacances locatives.
Eh bien, merci beaucoup Arnaud Accard. Voilà Cindy, le bail solidaire pour votre colocation.
Alors, vous auriez été en colocation avec Sylvain Lévy-Vélancy,
Véronique ? Moi, j'ai été en colocation, alors pas avec Sylvain, non. Mais...
Si, on a un kibbutz commun.
Un kibbutz, effectivement, j'imagine très bien. On s'y verrait, effectivement. Merci à vous. Merci aussi à vous tous qui nous posez des questions. Toujours le même numéro, 0826 300 300 sur le répondeur de Sud Radio.
Sud Radio, parlons immo, ça vous concerne.
Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.
Oui, évidemment que ça vous concerne l'immobilier. Je précise qu'il est 9h46 précisément et qu'en ce moment même, Emmanuel Macron est au salon de l'agriculture en train de caresser des vaches. Précisément, je vous donne tout ce qui se passe. C'est important, sachez-le.
Quelle info ?
Sachez-le, ça se passe bien. Pour l'instant, il n'y a pas de cohue, il n'y a pas de brouhaha. On va continuer à suivre la situation. Tout de suite, on parle du chantier du siècle.
Sud Radio, parlons éco-rénovation.
On en parle avec Laurent Permas et vous, Sylvain Lévy-Valency.
Absolument, un petit clin d'œil d'ailleurs à notre Grégoire qui est sur la route des vacances. Bonjour Laurent Permas.
Bonjour Sylvain.
Alors Laurent Permas, vous êtes le patron de l'éco-transition chez Sofinco. Merci de nous accompagner parce que chaque semaine, vous nous donnez les bons tuyaux pour bien comprendre la rénovation énergétique. Alors Laurent, cette semaine, j'aimerais qu'on en parle d'un sigle que l'on mentionne beaucoup, tout le temps. Ça s'appelle le label RGE, reconnu garant de l'environnement. Qu'est-ce que c'est exactement, Laurent ?
En fait, c'est un label qui permet en fait à un professionnel d'être formé, mais c'est surtout pour nos publics, hein, notamment les propriétaires de logements, de bénéficier des aides financières dont nous avons largement parlé. C'est MaPrimeRénov, l'éco-prêt à taux zéro, et puis le certificat d'économie d'énergie qui est appelé le C2E. Donc en fait, il faut bien vérifier que votre artisan, votre professionnel, lorsque vous allez engager des travaux, eh bien, est RGE. C'est certes un gage de qualité, mais c'est surtout obligatoire si, je le rappelle, si vous souhaitez bénéficier des aides. Sinon, c'est trop tard. Si vous engagez en fait avec un professionnel d'un devis et que celui-ci n'est pas RGE, vous ne pourrez pas bénéficier des aides qui sont proposées par l'État. Donc, c'est très important de bien regarder ce sigle RGE au début.
Donc, c'est très clair. Les amis, si vous n'avez pas un label RGE lorsque vous demandez quelqu'un de faire les travaux, vous n'obtiendrez pas les aides. Alors, vous dites que c'est un gage de qualité. Qu'est-ce que doit faire un professionnel s'il veut devenir RGE, par exemple?
Bah, en fait, il va tout simplement avoir un diplôme, hein, c'est une sorte de label avec un diplôme. Il doit choisir ce label auprès d'un organisme de qualification en fonction du type de travaux effectués. Donc, c'est Certibat, par exemple, pour les travaux de rénovation énergétique globale. Ça va être CALI-ENR, encore un sigle, pour les énergies renouvelables, comme notamment le photovoltaïque qu'on a évoqué la semaine dernière. Et puis, c'est les pros de la performance énergétique pour tous les travaux de performance justement énergétique. Alors, vous avez énormément de certifications avec des acronymes que vous pouvez trouver notamment sur l'ADEME, le site de l'ADEME. Et puis ensuite, les entreprises doivent se former, alors former surtout leurs collaborateurs et informer leurs clients sur l'approche qu'ils peuvent avoir. Et c'est un label en fait qui va mettre en avant notamment les compétences, le professionnalisme des artisans et la conformité qu'ils peuvent avoir. Notamment au travers de l'exécution des travaux avec les primes.
Alors, les professionnels deviennent RGE, donc ça génère plus de business pour eux, et tant mieux. Ça a bien commencé. Alors, comment, voilà, est-ce qu'il y en a de plus en plus, Laurent, des entreprises qui se labellisent?
Oui. Alors, ça a commencé en fait en 2015. Vous voyez, le premier label RGE a été lancé avec un peu plus de 25 000 artisans qui ont pris ce label, et puis aujourd'hui on en est à 62 900, vous voyez, c'est précis.
Alors ah oui,
on peut dire que c'est beaucoup puisqu'il y a une progression, et puis on peut se dire aussi, attendez, il y a plus de 500 000 artisans en France, oui, vous voyez, on a très peu qui sont justement RGE. Alors, faut être précis, vous avez des entreprises d'une certaine taille qui mettent en place ces dispositifs, hein, puisque c'est engageant en termes de formation, et c'est du temps aussi pour former ses collaborateurs. Mais je voudrais pas qu'on ait une opposition entre les RGE qui sont très bons, et puis les artisans qui ne sont pas bons parce qu'ils ne sont pas RGE. Mmh. En fait, c'est un sigle qui est à la main de l'artisan, et il va choisir d'être RGE.
Bien sûr.
Pour aller chercher aussi.
C'est pas parce qu'on n'est pas RGE qu'on n'est pas bon. C'est ce qu'on retiendra. En revanche, on n'aura pas d'aide si on ne fait pas appel à un RGE. Voilà, c'est tout bête.
Alors, justement, une question très prosaïque, méthode Jean-Marie Bordré. Justement, quels sont les travaux de rénovation énergétique concernés par le label RGE? Quand on est RGE, on a compris, c'est pour avoir les aides, effectivement, indépendamment de la qualité, quels sont les travaux qu'on peut réaliser?
Alors, chaudière, donc ça c'est important, on en a aussi parlé dans une de nos chroniques, l'équipement de chauffage ou la fourniture d'eau chaude sanitaire, la ventilation mécanique, notamment la fameuse VMC, et puis tout ce qui est lié aux matériaux d'isolation thermique, des parois vitrées, verticales, en toiture, externe, interne. Donc vous voyez que ça couvre l'ensemble des chantiers qui sont notamment couverts sur les travaux de grande ampleur, mais aussi sur les gestes simples.
Alors, question, on en a beaucoup parlé ici sur Sud Radio, également sur Radio Imo, sur les problématiques de fraude, d'arnaque à l'énergie, c'est un vrai sujet. Quand on parle de label de confiance, est-ce qu'il y a tout simplement, Laurent, des fraudes? Est-ce qu'il y a eu des fraudes au RGE, au label RGE, autrement dit des faux labellisés, par exemple, ce genre de choses?
Alors, il y a des fraudes au DPE, il y a des fraudes au RGE. En fait, lorsque vous avez des primes qui sont proposées par l'État, forcément, vous avez souvent des fraudes. Alors, la première chose à dire, pour éviter ces fraudes avec le label RGE, c'est très simple. Vous allez sur le site Ma Prime Rénov.
Voilà,
donc, sur le site Ma Prime Rénov, vous avez la liste de tous les professionnels qui sont RGE.
Donc, s'ils sont pas dans le bottin, c'est qu'ils y sont pas. C'est tout bête, c'est le juge de paix.
Exactement, exactement. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez très bien, avec toujours Ma France Rénov, prendre contact avec un MAR, c'est-à-dire mon accompagnateur Rénov, qui est un peu un architecte d'intérieur, et qui va vous accompagner et qui vérifiera lui aussi, puisqu'il est agréé par l'État, qui vérifiera si les professionnels, puisqu'il proposera plusieurs devis, sont bien labellisés RGE.
On aura tout compris.
Merci beaucoup, Laurent.
RGE et Omar. Donc, Laurent Permas, le prochain acronyme que vous m'apprenez, vous me payez un verre, hein, parce qu'à un moment, je sais que c'est pas votre idée, mais à un moment, faut quand même passer à la caisse. Allez, tout de suite, je vous le rappelle, tout de suite, on va faire le Tour de France.
Sud Radio, parlons éco-rénovation.
Place au Tour de France, je le disais, avec Sylvain Lévy et Valency, les biens coup de cœur. On va où?
On va où cette semaine?
Eh bien, je vous emmène en Gironde, direction à la proche banlieue de Bordeaux, à Mérignac. Et d'ailleurs, cette ville a une application ici, Mérignac, pour être connecté et pour suivre justement les informations municipales. Donc là, cette semaine, je vous ai trouvé une maison de 140 mètres carrés, 6 pièces. Une maison située justement à côté de la mairie. Donc vous pourrez tweeter sur X plus facilement vos infos. Une maison de plein pied. Elle comprend une entrée, 4 chambres, une salle d'eau avec douche à l'italienne et une seconde salle de bain. Vous trouverez aussi un cellier, une cuisine, attention, entièrement équipée et semi-ouverte sur un grand salon séjour et une autre grande pièce de vie qui donne une belle terrasse.
Bon,
qui donne
bien.
Sur une belle terrasse, 32 mètres carrés. Et puis, attention, cerise sur gâteau pour vous, Jean-Marie, il y a une piscine enterrée.
Ah, ça, c'est important.
Ça, vous adorez, hein.
Pourquoi vous voulez enterrer ma piscine?
Non, mais ça veut dire qu'elle est creusée, quoi.
Voilà,
vous voyez,
c'est pas une piscine hors sol. Merci.
Voilà. Terrain de 459 mètres carrés, il y a une dépendance, un garage de 30 mètres carrés et une cave. Bon, et... une maison très sympa, 594 200 euros par Basile. Vous pouvez la retrouver sur Basile. Petite situation de simulation de financement, un apport de 20%, soit 118 000 euros et un emprunt sur 25 ans à 3,2%. Vous pouvez avoir des mensualités à 2300 euros.
Merci Bérénice. En un mot, la deuxième maison?
On va dans l'Isère, si vous voulez bien.
Oui, elle est très bien. On part au ski.
Oui, vous connaissez Froge en plus. Je suis sûr que vous connaissez tout. Bérénice, c'est une maison de village.
Oui, qu'on vous a trouvé. Une maison de 55 mètres carrés, idéale pour un investissement. Une cuisine ouverte sur un séjour, une salle de bain et à l'étage, deux chambres dont l'une possède une terrasse. En plus, une cave et un atelier si vous êtes un peintre. À noter que si vous achetez la maison, un locataire se trouve sur place jusqu'en juillet 2025. Donc son loyer est de 680 euros.
Mais merci beaucoup, Bérénice. Anis de Villefleurio. Merci à vous, Sylvain Lévy-Valency. Et à tous vos invités. Cette émission sera rediffusée en direct mardi midi sur Radio Imo. Précisément. Et puis vous, on vous retrouve à 9h15 samedi prochain sur Sud Radio. On embrasse aussi notre Jean-Claude Dussanou, Grégoire Daricot, qui est sur la route des vacances
sur la route
en ce
des
moment.
Vacances, voilà.
Et qui va essayer de planter son bâton. Allez.
Sud Radio, parlons Imo. Sylvain Lévy-Valency.
Avec Basile, votre application de recherche immobilière.